Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Samuel Grenier. Bienvenue à mon entretien aujourd'hui en compagnie d'Olivier. J'aurai la chance de rencontrer et de discuter avec un homme que j'ai suivi, que j'ai appris à suivre depuis 2 ans maintenant. Alors, vous êtes peut-être sur les plateformes de Myriam Kaiser, porteur de flambeau, sinon Sébastien Desautels, sur mon profil personnel, sur la page Facebook de la Fondation de la Défense des droits et libertés du peuple, ou sinon sur Samuel Grenier, page publique, ou Samuel Grenier, blogueur, quoi qu'il en soit, merci d'être là. Alors, dans quelques secondes, immédiatement après la pause, nous serons ensemble avec Olivier et Martin Blachier. Bonjour tout le monde. Je viens d'apprendre que mon invité, que notre invité, à Olivier et moi, mais il était né à Montréal, à l'hôpital Royal Victoria en plus. Alors, Canadien, il pourrait être Canadien, considéré comme ça. C'est le plus médiatisé des médecins. En fait, c'est un médecin avec 100 patients. Alors, il pourrait nous en parler. Ces modélisations ont menacé le corporatisme du système de santé en France. Il est présent sur à peu près tous les plateaux télé et radio qui se respectent. Si on mettait bout à bout toutes ces entrevues, on cumulerait des millions de minutes de vues. Alors, ça me fait plaisir de le recevoir en compagnie d'Olivier Martin Blachier. Bon
Bonjour.
après-midi et bonne soirée.
Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous et de pouvoir discuter avec vous parce que j'ai effectivement beaucoup travaillé sur la crise Covid en France et un peu en Europe, mais c'est vrai que le Canada, pas beaucoup, donc avec grand plaisir.
Bien, merci beaucoup d'être là. En premier, on pourrait tout de suite évacuer cette question-là. Bon, un, on s'est entendu sur le fait qu'on pouvait se tutoyer avant l'entrevue. Et la première chose, c'est est-ce que Martin Blachier est touché par un conflit d'intérêts lorsqu'il s'adresse à nous en tant que médecin?
Je travaille avec énormément de monde, mais je n'ai pas de conflit d'intérêts sur la COVID. Et en général, vu le contenu de ce que je dis, les gens comprennent que je n'ai pas de conflit d'intérêts.
Excellent. Puis Olivier, on en parlait lorsqu'on préparait l'entrevue. Martin est un médecin sans patient. Donc, ça fait 15 ans que vous travaillez sans finalement avoir de consultation auprès de patients individuellement parce que vous êtes plus dans épidémiologiste et vous êtes modélisateur.
Exactement. Donc, je travaille sur le sujet des patients. Les patients occupent mes journées, mais pas au lit du malade, comme on dit. Je travaille sur des données, je travaille sur toutes les informations qui peuvent permettre de travailler sur les populations. Et c'est pour ça que sur cette crise du Covid, en fait, quand le président français a décidé de confiner la France le 12 mars, on était le deuxième pays européen à se confiner après l'Italie. J'ai appelé mon associé, qui est le modélisateur en chef de la boîte, et je lui ai dit, on ne sait pas vers où ils vont, tout le monde est perdu, il va falloir qu'on travaille très dur pour essayer de sortir le pays le plus vite possible, parce que pour nous, le confinement, c'était une impasse, et on ne savait pas comment aller en sortir. Donc, on s'est mis à se lancer dans un travail pro bono de modélisation, et puis on a commencé à donner nos analyses. D'abord, on les a envoyées aux gouvernants, qui évidemment ne les ont pas regardées. Et donc, avec Henri, on a décidé d'aller directement aux médias. Et comme les médias français recherchaient des informations, bah on s'est mis à être de plus en plus connus. Et à la fin, on était quasiment en contact direct, notamment avec le président de la République, pour donner nos analyses.
Ah, ça, c'est intéressant, Martin, ce que tu dis. C'est-à-dire que le travail que tu effectues au quotidien est remonté jusqu'à l'Élysée, jusqu'au président?
En fait, la France, mais comme la plupart des pays, vous avez deux moyens de joindre les décisions publiques. Et en France, c'est un système qui est très présidentiel. Donc, c'est le président qui décide tout, surtout avec Macron, l'actuel. Donc, soit vous remontez toute l'échelle hiérarchique en passant par le ministère, puis les conseillers, vous avez une chance sur 1 million d'arriver, mais on a quand même essayé de le faire. Et si vous n'y arrivez pas, vous exprimez directement dans les médias. Il faut savoir que tous les hommes politiques regardent les médias en permanence. Et au bout d'un moment, à force de marteler votre message, vous arrivez à être entendu et là, vous pouvez être reçu effectivement directement.
Mais en même temps, Martin, vous avez réveillé des experts qui n'étaient pas d'accord avec vous. Là, je m'adresse ton associé et toi. Vous avez réveillé des experts qui avaient des chasses gardées, qui avaient d'autres modèles de modélisation.
Alors, absolument. Alors, on a eu tout un tas d'ennemis dans cette crise. Les premiers ennemis, ça a été les cliniciens, parce que ceux qu'on voyait le plus sur les plateaux, c'était notamment les réanimateurs et les urgentistes, qui, eux, se gênaient pas pour parler d'épidémiologie sans rien y connaître. Après, les autres modélisateurs, qui étaient les modélisateurs de l'Institut Pasteur et de l'INSERM, il y avait une femme qui s'appelait Colisa et un jeune homme qui s'appelait Cauchemès, qui avait été formé d'ailleurs par Ferguson à Londres, qui, eux, émettaient des modélisations qui parfois étaient pas dans la direction des nôtres, mais parfois également dans la direction des nôtres, ce qui n'empêchait pas les cliniciens de toujours réclamer plus de mesures restrictives, toujours plus, toujours plus. Ils ont été entendus pendant un temps, et puis au bout d'un moment, le président a décidé de plus nous écouter, nous, finalement, que ces gens qui voulaient toujours enfermer tout le monde.
Mais à la base, là, quand vous avez. Premièrement, quand on parle d'épidémiologiste, ça fait quoi au juste un épidémiologiste? Pour qu'on le situe là, par rapport à modélisateur, là, parce que.
Alors, vous avez raison, parce qu'en fait, c'est des choses qui sont assez différentes. À la base, les épidémiologistes, c'est plutôt des gens qui travaillent sur les données passées. Donc, en fait, on suit des patients, on enregistre un certain nombre de données et on va faire des calculs statistiques pour savoir qu'est-ce qui est associé à la maladie. Le tabac est associé au cancer du poumon, la pollution est associée à des maladies pulmonaires, manger trop de gras est associé au fait de faire des infarctus. Tout ça, c'est l'épidémiologie classique. La modélisation, en fait, déjà, c'est quelque chose qui ne concerne pas uniquement la santé. Les modélisateurs ont été utilisés par la NSA pour savoir que la Russie allait rentrer en guerre en fonction de la mobilisation des troupes sur le terrain. Le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui est analysé à partir de modélisation. Il y a tout un tas de choses de physique qui sont aussi modélisées et la modélisation est rentrée dans la santé. Alors, elle concerne essentiellement les épidémiologistes qui ont l'habitude d'utiliser les données en santé, mais c'est un peu une spécialité à part et qui est peu développée en France comme ailleurs. Parce que c'est assez compliqué, il faut bien connaître les données de santé et aussi bien connaître les techniques de modélisation qui se rapprochent en fait plus des mathématiques que des statistiques.
Okay. Mais quand il y a deux écoles de pensée, il y a ceux qui regardent la modélisation avec un modèle que vous expliquez avec voyons, la variable R qui donne dans le fond une moyenne pour une vitesse de propagation. Et vous, dans votre entreprise, l'expertise que vous avez développée, c'est plus y aller avec une micro-simulation. Donc, vous partez de l'hypothèse que les gens, lors d'une situation de pandémie, n'ont pas les mêmes comportements que lorsqu'il n'y a pas de pandémie. Donc, c'est inutile de poser les mêmes hypothèses au départ.
Alors,
Olivier, peut-être parce
si tu
que.
me permets, c'est juste pour compléter ce que tu disais, c'est parce que là, tu amènes à l'histoire de Ferguson, qui est l'Anglais qui avait fait des prédictions en disant qu'il y aurait 3,5% de taux de mortalité. Donc là, Martin pourrait expliquer comment lui travaille et
C'est
comment
lui,
Ferguson
ouais, lui.
travaille pour trouver ces chiffres-là.
Alors, tout à fait, ce que disait Samuel est très juste, c'est ce que j'écris dans le livre. En fait, les modèles qui ont été utilisés à la base, sous l'inspiration de Ferguson, mais c'était des modèles qui étaient connus depuis très longtemps, depuis les années 50, c'est ce qu'on appelle des modèles à compartiments. Ce sont des modèles extrêmement simples qui mettent effectivement ce coefficient R que tout le monde a appris à appréhender. C'est le nombre de personnes en moyenne qu'une personne va contaminer dans une situation donnée. Et donc ce R, au début, il était estimé à 2, 3, vous avez entendu tout un tas de données. Et en fait, ces modèles-là, considèrent que malgré la vague qui va monter, les gens ne vont pas changer de comportement. Notamment, quelqu'un qui est malade, finalement, ne va pas s'isoler et va continuer d'aller dans des restaurants, continuer d'aller au travail et infecter tous les autres. Et de la même façon, vous avez 10 personnes autour de vous qui sont malades, vous n'allez pas changer votre comportement. Vous allez continuer d'aller en boîte de nuit, vous allez continuer d'aller dans des restaurants, jusqu'à ce que vous soyez infecté. Et donc, naturellement, c'est des hypothèses qui sont fausses, et ça a été montré par des sociologues américains. Au fur et à mesure que la vague monte, vous avez un espèce de rétro-contrôle naturel qui est que les gens changent leur comportement. Et c'est pour ça que quand les gens de Johns Hopkins ont regardé toutes les simulations qui avaient été faites sur les vagues épidémiques, on s'est rendu compte qu'en fait, elles étaient toujours largement surestimées, parce qu'au bout d'un moment, la vague casse parce que les gens changent leur comportement. Et donc, le R s'ajuste en permanence. Et nous, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu comme souci, parce qu'on a opté assez rapidement pour une génération de modèles qui est de la micro-simulation, où en fait, on ne raisonne pas sur une vitesse moyenne du virus dans la population. On va modéliser de façon très micro la totalité des interactions qu'il y a entre les personnes dans la société. Globalement, on va créer des petits clusters, on va calculer comment les gens sont les uns avec les autres. Et du coup, quand on va mettre des mesures les unes après les autres dans notre modèle, on va être capable d'avoir une vision très fine de l'impact que chaque mesure a sur l'épidémie. Et c'est comme ça qu'on a réussi finalement toujours à être beaucoup plus précis que les gens qui faisaient des modèles à compartiment et qui finalement au début, parce qu'on ne connaissait pas l'efficacité des mesures barrières sur le R, étaient totalement fausses et biaisées.
Alors, comment tu expliques que si ce mode de calcul que toi tu utilisais, comment tu expliques que chaque pays, on va comparer la France avec le Canada, comment c'est possible que, par exemple, en France, on a le conseil scientifique et on connaît ton point sur le conseil scientifique français, a pu être aussi alarmiste et prévoir, par exemple, comme l'année dernière, nous, on te suit depuis septembre, on diffuse régulièrement toutes tes interventions des différentes émissions françaises pour montrer ce qui se dit. Et on a bien vu que toutes tes prédictions se sont avérées justes, alors qu'on a de l'autre côté le conseil scientifique qui nous appelait à une catastrophe, que les hôpitaux allaient déborder, qu'il y allait avoir plein de cas. Et au Québec, c'est exactement la même chose. C'est toujours de l'alarmisme. Est-ce que c'est une volonté politique? Est-ce que c'est une incompétence des gens qui fournissent les données aux politiciens? Comment t'expliques que chaque pays ne se soit pas basé justement sur des données ou la méthode de travail que tu utilises?
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le milieu scientifique, on l'imagine toujours comme quelque chose d'extrêmement innovant. Parce que les gens, dans leur inconscient, ils associent la science à Steve Jobs, à Elon Musk, à Einstein, et ils imaginent toujours des gens qui sont totalement disruptifs. En fait, la communauté scientifique n'est pas du tout comme ça. La communauté scientifique est extrêmement conservatrice. Et vous avez des hiérarchies qui s'établissent, en fait, au sein des chercheurs, et c'est extrêmement rare d'avoir un chercheur qui va aller contredire un confrère si celui-ci est jugé légitime. Et comme Niels Ferguson avait une certaine aura chez les modélisateurs, finalement les gens dans les autres pays ont fait la même chose et tout le monde s'est un petit peu observé. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a observé dans cette crise, en fait, il y a une espèce d'uniformisation des politiques dans les différents pays, ce qui fait que c'est extrêmement difficile pour une idée nouvelle de faire sa place, puisque on va toujours dire, mais regardez, dans ce pays, ils font comme ça, et tout le monde fait pareil. Et d'ailleurs, le plus souvent, l'argument qu'on m'a opposé quand je faisais des analyses, il me disait, mais tout le monde a confiné. Et
Exact.
finalement, ça s'est fait comme ça. Il y a une espèce de doxa, mais une doxa qui est mondiale. Et le fait qu'elle soit mondiale renforce la notion de doxa. Et c'est pour ça que l'argument de dire, mais dans ce cas-là, pourquoi personne ne se posait? Mais justement, parce qu'en fait, les pays se regardent tous les uns les autres. Et il y a tellement en plus une espèce de hiérarchie des pays que finalement, il suffit qu'il y ait un pays, qui soit les États-Unis ou l'Angleterre, qui fasse quelque chose, tout le monde va s'aligner et après, vous ne pouvez pas aller contre cette espèce de machine qui s'est mise en place de conservatisme scientifique. Et voilà, selon moi, la dynamique de ça.
Vas-y, Samuel.
Ben, parce que justement, c'est quoi ta position par rapport à ça, au confinement auquel on a assisté? Est-ce que ça a été une mesure qui a pu aider?
Bah, le confinement, c'est une mesure par excès. Donc, les gens qui disent que les confinements ne marchent pas, c'est pas possible. Si vous stoppez les interactions entre les gens, forcément, ils vont plus se contaminer. Donc, ça, c'est un fait. La question n'est pas celle-là. La question est de savoir s'il fa c'était nécessaire de se confiner. Et aujourd'hui, on sait que non. On sait que c'est pas du tout nécessaire d'enfermer les gens chez eux pour stopper une épidémie. Déjà parce que vous avez ce qu'on appelle la dispersion. C'est-à-dire que vous avez un très très grand nombre de contaminations qui se font dans peu de lieux. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de tout arrêter pour empêcher la grande majorité des contaminations. Vous avez besoin de prendre quelques mesures ciblées, notamment éviter les boîtes de nuit. Bon, ça par exemple, c'est sûr. Vous pouvez notamment mettre des jauges dans les restaurants, faire certaines mesures de télétravail, et quelques mesures comme ça à peu près équilibrées auraient pu arriver quasiment à l'efficacité d'un confinement. Ça, on ne le savait pas au départ, alors qu'on aurait pu le savoir parce que ça paraît quand même assez facile à anticiper. Mais ce qui est dingue, c'est que pendant 2 ans, on a continué sur cette logique binaire de confinement, pas confinement. Donc oui, moi, ce que je pense, c'est que ce n'est pas sérieux, les confinements tels qu'on les a eus. Et on aurait dû très vite adapter les mesures et faire des choses beaucoup plus light, comme notamment l'ont fait les Suédois. Et d'ailleurs, quand vous regardez l'impact des confinements sur les différents pays, ce n'est pas les confinements les plus durs qui ont le mieux marché. Globalement, si vous avez pris quelques grandes mesures, plus le rétro-contrôle dont je parlais tout à l'heure, vous arrivez aux mêmes mesures que les pays totalement extrêmes, comme l'a été la France lors du premier notamment, avec des attestations pour pouvoir sortir de chez vous.
Parce que si, moi, alors, je vais te faire exprès pour prendre le contre-pied. Si tu prends l'exemple des États-Unis, aux États-Unis, la Floride et le Texas, parce qu'évidemment, la France ne donne pas l'information de ce qui se passe aux États-Unis, mais les Américains, que ce soit la Floride ou le Texas, ont pris une position très rapidement de ne pas confiner les populations, de laisser la vie aller. Et en fait, j'ai consulté des chiffres, j'ai regardé, je fais une comparaison entre quatre États. J'ai regardé New York, la Californie, le Texas et la Floride. J'ai pris exprès ces quatre États-là, c'est les quatre plus gros, on va penser que c'est les quatre plus gros en termes de population, et c'est les quatre où il y a les extrêmes. New York et Californie, très restrictifs, fermeture, masque, distanciation à la totale, et Floride, Texas, liberté quasiment totale, quasiment aucune restriction. Je mets un bémol parce qu'il y en a qui vont, les pointilleux vont dire que en Floride et au Texas, dans les comtés démocrates, ils ont quand même laissé les masques aux enfants. On viendra sur le sujet des enfants après, mais ils ont laissé le masque aux enfants. Dans certains endroits, il y a des masques quand même. Mais globalement, dans l'État, on va dire que ça vivait normalement un peu le principe suédois. Et quand tu regardes les chiffres, tu t'aperçois que les chiffres sont exactement les mêmes. Ça veut dire qu'en fait, on a la preuve en regardant les États américains, confinement, non confinement, restriction, non restriction, le virus a fait le travail de la même façon. Les chiffres sont exactement les mêmes. Eh bien, on va pas chipoter pour une histoire de 20 000 quand on parle en millions de personnes, mais les chiffres sont équivalents. Ce qui tendrait à confirmer ce que tu expliques. Que le virus fait ce qu'il a à faire et que le confinement n'a aucune incidence sur la propagation du virus.
Non, le virus fait ce qu'il a à faire, mais c'est surtout les gens font ce qu'ils ont à faire. Et c'est ce phénomène de rétro-contrôle en fait des gens sur leur comportement d'eux-mêmes qui joue. Et ça a été montré. Et ça, c'est une intuition qu'a très très vite eu Henri Leleu, mon associé, puisqu'en fait, on se rend compte que les gens adaptent parfaitement leur comportement globalement pour avoir un R autour de 1. Et c'est-à-dire que quand l'épidémie va monter, ils vont changer un peu leur comportement, ils vont ramener le R à peu près à 1. Et à l'inverse, quand le R va commencer à diminuer en dessous de 1, bah les gens vont un petit peu se relâcher et ça va le faire remonter. Donc en fait, le rythme normal de l'épidémie, c'est d'être à peu près à l'équilibre. Le problème, c'est les changements de rythme, notamment quand vous changez de saison. En fait, quand vous changez de saison, les gens ont à peu près pris un équilibre de rythme et la saison vient changer de 30% l'équilibre. Et donc, le temps que la population se réadapte, hop, vous faites une vague. Et c'est pareil pour l'arrivée d'un nouveau variant qui est plus contagieux. Donc, en fait, les gens sont sur l'équilibre. Et le problème, c'est quand vous avez un variant ou quand vous avez effectivement un changement de saison, bah, ça fait. Le problème, c'est que souvent, le confinement, vous le faites trop tard. Et donc, en fait, vous faites un confinement un peu en décalé, ce qui fait qu'en fait, il n'a pas un impact très important par rapport au pays où on ne fait pas de confinement et les gens se réadaptent d'eux-mêmes. Et ça, c'est un phénomène dont on a très très peu parlé, mais qui est réel et qui est démontré dans les études, notamment américaines, qui ont effectivement comparé les différentes zones.
Justement, Martin, on apprend que la transmission du virus serait aéroportée, hein, et ce n'est pas les surfaces qui nous contamineraient, mais beaucoup plus l'air dans lequel nous sommes. Mais ça semble être difficile de convaincre, de convaincre le milieu. Ça serait, vous considérez ça comme une chasse gardée intellectuelle, à l'effet que c'est pas tout le monde qui veut y croire et qui veut bien faire avec ça, justement.
En fait, faut comprendre que les mesures barrières, ça appartient à un monde médical qui est le monde des hygiénistes hospitaliers. Les hygiénistes hospitaliers, ce sont les gens qui sont en charge de s'assurer de la stérilité et notamment de faire en sorte que quand vous êtes opéré de la jambe, vous n'ayez pas un germe qui vienne se mettre dans votre os et que vous fassiez une infection de prothèse, ce genre de choses. Et l'obsession de ces gens-là, c'est la désinfection des surfaces. Et comme c'est ces gens-là qu'on a interrogés au début sur les mesures barrières, ils ont mis le paquet sur désinfection des surfaces et lavage des mains. Notamment, le masque n'était pas en priorité et l'aération des pièces, on n'en parle même pas. Or, c'était quand même un virus respiratoire. Et donc, comme ça, par déformation professionnelle et par conservatisme scientifique, comme je vous ai dit tout à l'heure, le milieu scientifique est extrêmement conservateur, il y a très peu de gens qui sont disruptifs, on a adopté des mesures pour désinfecter les surfaces à l'hôpital à la population générale. Et ce qui fait qu'il y a eu une espèce d'empirisme, et encore aujourd'hui, les gens placent ça en numéro un des mesures barrières, le fait de se laver les mains. Alors que la première des mesures barrières, c'est d'ouvrir la fenêtre. La deuxième des
Martin,
mesures barrières, c'est potentiellement de porter un masque.
Si tu me permets, Martin, les mains, c'est lié à Raoult. Raoult disait depuis le départ, a dit que le plus important, c'était de se laver les mains, puisqu'il dit que les virus respiratoires s'attrapent par les mains. C'est lui qui dit ça depuis le début.
Mais c'était une croyance qui existait en fait depuis longtemps. Il y avait des publications de très très mauvaise qualité qui expliquaient que la grippe se passait par les mains. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était de la science de mauvaise qualité avant qu'il y ait le Covid. On a commencé à vraiment regarder les choses de très près avec ce Covid, vu l'impact qu'il a sur nos vies. Mais la transmission des virus grippaux et la transmission du rhume, vous vous doutez bien que c'est pas quelque chose qui avait la priorité scientifique. Les très bons travaillaient sur le cancer, travaillaient sur le sida, travaillaient sur d'autres pathologies. Et l'arrivée du Covid a fait faire d'énormes découvertes, notamment avec les physiciens qui ont travaillé sur le phénomène aérosol en modélisant les particules. On a fait, vous vous rappelez, on avait des vidéos avec des aérosols qui sortaient de la bouche. On regardait s'ils allaient d'un rayon à un autre. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas avant la crise du Covid. Donc, on était sur de la science de bas niveau. Et c'est pour ça que des scientifiques comme Raoult ou comme Pittet nous ont raconté leur sauce du lavage des mains. Aujourd'hui, on sait que c'est bidon et que probablement que s'être lavé les mains pendant 2 ans, ça a servi à quasiment rien sur cette épidémie de Covid.
Ah, vraiment, c'est rendu à ce point-là, c'est-à-dire que c'était quasiment inutile.
Ah bah, si vous voulez, mon avis, moi qui ai bien regardé la littérature scientifique, je pense que l'impact du lavage de mains sur l'épidémie, il est de zéro.
Et le masque?
Le masque, toutes les études se mettent d'accord pour dire que c'est environ 70% de protection. Donc le masque en intérieur, particulièrement dans des lieux où vous restez longtemps, retarde un peu le moment où vous êtes infecté. Globalement, imaginez que vous ayez une pièce, là moi je suis dans une pièce qui doit faire 10-15 mètres carrés. Si je suis avec 2-3 personnes, si j'ai pas de masque, au bout de 2 heures, je suis quasiment sûr d'être infecté. Si j'ai un masque, ça va être au bout de 3 heures, 3 heures et demie. Donc le masque va jouer sur le temps nécessaire pour que je m'infecte quand je suis dans un lieu clos avec quelqu'un de contaminé.
Donc, je vais finir ta phrase. À l'extérieur, c'est totalement inutile.
À l'extérieur, c'est les physiciens l'ont très bien montré. Le risque de s'infecter, c'est une espèce d'équation. Et dans l'équation, il y a le volume d'air qui est occupé. Le volume d'air étant infini et les échanges gazeux se faisant extrêmement vite avec l'atmosphère, quand quelqu'un respire à l'extérieur, le fait que la concentration de virus a une probabilité infinitésimale d'être suffisante pour infecter quelqu'un qui est en face de moi. Donc, inutile.
Mais justement, alors à ce moment-là, est-ce qu'on peut parler du protocole à l'école? C'est quoi ta position vis-à-vis des enfants? Comment est-ce qu'on aurait dû les protéger si c'était une question à considérer?
Alors, les enfants, déjà, il y a de leur protection à eux-mêmes. Les enfants sont quasiment pas à risque. Les formes graves, c'est exceptionnel chez les enfants. Ça fait, voilà, il y a moins de formes graves pour la Covid, que pour les autres maladies respiratoires auxquelles on n'a jamais prêté attention, pour les enfants. Donc, ce n'est pas une maladie infantile. Et après, il y a eu le sujet des PIMS. Vous savez, ces espèces de syndromes inflammatoires que les enfants peuvent développer. Après une infection virale qui existe pour toutes les autres infections virales, et il n'est même pas certain que pour la Covid, ce soit beaucoup plus important. Simplement, c'est juste que c'est une infection qui a été assez vite. On nous avait annoncé une explosion des PIMS en France pour les mois en ce moment. On les voit pas dans les services. Donc, je pense pas que le phénomène de PIMS soit quelque chose qui nécessite de prendre des mesures drastiques pour les enfants. Donc, pour les enfants eux-mêmes. Il n'y avait pas d'intérêt à porter un masque, il n'y avait pas intérêt à changer quoi que ce soit à l'école ni ailleurs. Ensuite, c'est poser la question du rôle qu'avaient les enfants sur la contamination du reste de la population. Et là, il y a eu, pour moi, une utilisation faussée des données qui étaient en présence, qui était de considérer que c'était les enfants qui étaient le moteur de l'épidémie. Il n'y a aucune donnée pour montrer que ce sont les enfants qui étaient le moteur de l'épidémie. Si vous regardez les espèces de grilles, vous savez, vous avez les évolutions des incidences par classe d'âge. Vous avez sûrement eu ça. Vous avez des cases rouges, oranges, vertes. Vous voyez que les cases qui deviennent rouges le plus vite possible, ce sont toujours la population de 18 à 40 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la population qui est la plus sociabilisée et qui se mélange le plus aux autres. Le moteur de l'épidémie, ce sont les gens qui font la fête. Ce sont les gens qui se mélangent. Ce sont les gens qui vont dans des lieux où ils ne vont pas d'habitude. Toutes les personnes qui ont une vie routinière ne sont pas le moteur de l'épidémie, puisqu'en fait, elles voient toujours les mêmes personnes. Et donc, les cercles ne se mélangent pas les uns aux autres. Et les enfants sont des gens qui ont une vie extrêmement routinière. Et ça, dans notre modèle, on a pu le voir. Comme notre modèle prenait en compte toutes les interactions entre les gens, dès le début de l'épidémie, on a vu que les enfants n'étaient pas le moteur de l'épidémie. En fait, les enfants sont contaminés par la génération de leurs parents ou de leurs grands frères et sœurs. C'est cette génération de jeunes très sociabilisés qui répand l'épidémie. Ensuite, elle descend vers les enfants et elle remonte vers les aînés. Et les enfants n'ont jamais été le moteur de l'épidémie. Et d'ailleurs, les Américains du CDC qui se sont intéressés à voir l'impact des fermetures d'écoles sur l'épidémie ont montré que les fermetures d'écoles n'avaient jamais eu d'impact sur les vagues épidémiques. Donc, toute cette histoire de protocole à l'école, pour moi, est une foutaise. On n'aurait jamais dû masquer les enfants et on n'aurait jamais dû fermer les écoles.
Est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on a, à la lueur de cet éclairage-là, avec ces informations-là, est-ce que tu as confiance, Martin, que les décideurs en prennent bonne note afin d'éviter de répéter ces mêmes erreurs-là dans un avenir prochain avec un autre coronavirus ou avec une autre vague pour laquelle il pourrait faire plus d'éclat? Est-ce qu'on apprend de ces conclusions?
Je pense que, en tout cas en France, qui est le pays que je connais de plus près, il n'y aura plus de fermeture d'école.
Okay.
On a été un des premiers pays du monde à arrêter de fermer les écoles. En fait, on a fermé les écoles que deux fois. Lors du premier confinement, on peut pardonner l'inexpérience de la crise et l'effet de panique. Et elles ont été fermées deux fois, une deuxième fois, une semaine en avril 2021. Et tout le reste du temps, elles sont restées strictement ouverte. Alors après, il y a eu la question du masque à l'école, de tout l'impact que ça peut avoir. Mais sur la fermeture des écoles, ça s'est pas fait. Et je crois que le monde a suivi. Je crois qu'une fois que les écoles ont été rouvertes, elles n'ont plus été refermées dans les autres pays. Donc, je pense que c'est une leçon qui restera. En revanche, ce protocole…
Il y a quand même le protocole qui ferme les classes. Dès qu'il y a un cas de Covid, il ferme les classes quand même, hein.
Absolument. Et ça a été la peur, notamment du PIMS. Après, c'est sûr que le fait que les populations soient vaccinées aujourd'hui et qu'on ait un variant Omicron qui soit moins virulent a changé un petit peu les comportements. De toute façon, il y a toujours eu cette croyance, et qui n'est pas complètement sortie de la tête des gens, que c'est les enfants qui font circuler le virus. Et en fait, c'est une notion qu'on avait pour la grippe. En fait, c'est une notion qui vient de la grippe et qu'on a gardée. Encore une fois, je crois que sur la grippe, on a pensé beaucoup de bêtises. Et cette crise nous a montré, qu'on a regardé de très près, qu'on a eu plein de données, que ce ne sont pas les enfants qui transmettent la grippe, ce sont essentiellement les 18-40 ans. Après, il y a une petite différence avec la grippe, c'est que la grippe, en fait, les adultes sont immunisés, parce que depuis qu'ils sont tout petits, ils sont confrontés au virus. Là, la situation qui était tout à fait particulière, c'est que c'était un virus sur lequel personne n'est immunisé. Et en fait, c'est ça qui a tout changé pour cette crise-là. Parce qu'en fait, l'histoire naturelle, c'est vous naissez, vous n'avez pas d'immunité. Vous êtes tout jeune, vous allez à la crèche, vous rencontrez tous les virus. Et donc, vous construisez votre immunité. Ce qui fait qu'en fait, quand vous vieillissez, quand vous rencontrez ces virus-là, vous en faites des formes très bénignes. Alors que si jamais vous n'aviez pas été à l'école, et par exemple, vous aviez vécu sur une île déserte, vous n'aviez jamais rencontré ces virus-là, vous arrivez dans un pays comme la France où ces virus qui circulent, vous allez potentiellement faire une forme sévère si vous avez, par exemple, 60 ans. Et en fait, c'est des choses qui n'arrivent jamais. Et donc, en fait, c'est ces systèmes immunitaires un petit peu fatigués de personnes âgées qui n'ont pas pu rencontrer ces virus-là dans leur jeune temps qui fait qu'on a eu ces vagues épidémiques extrêmement mortelles en début d'épidémie.
Et le phénomène, alors justement, en parlant de variantes, tu as parlé d'Omicron, est-ce que tu peux expliquer le côté où on dit que bon, la première vague, on sait que bon, c'était la souche originale de Wuhan qui était la plus virulente, etc. Puis qu'après, à chaque variant, il devenait de plus en plus contagieux et de moins en moins dangereux. Est-ce que tu peux expliquer cette notion de… Parce que c'est vrai que c'est très schématisé quand on l'explique, mais il y a une raison qui fait que pourquoi les variants seraient très contagieux et moins dangereux, ou pourquoi ils ne sont pas peu contagieux et très dangereux. Est-ce que tu peux nous expliquer ça?
Alors, en fait, les variants, on les a accélérés. C'est-à-dire que ces variants qui s'enchaînent les uns après les autres, ça n'aurait pas dû aller si vite. Et en fait, c'est nos réactions à l'épidémie qui ont très probablement entraîné cette sursélection de variants. Pourquoi? Un virus qui veut, c'est circuler. Il veut circuler de personne à personne. C'est un parasite, au sens, il vit aux dépens de quelqu'un d'autre. Et donc, il va utiliser, vous savez, un virus, c'est le seul organisme qui ne peut pas se diviser tout seul. Il a besoin de vos cellules pour se diviser. Et donc, c'est comme ça qu'il prospère. Quand vous lui mettez des mesures barrières, en fait, vous ramenez son R à 1, en limitant les interactions entre les gens. Et donc, vous lui mettez des contraintes qui vont l'encourager à développer un variant qui va pouvoir passer au-delà de ces mesures barrières pour pouvoir refaire ce déséquilibre dont je vous parlais tout à l'heure et repartir en vague épidémique. Et donc, en fait, en mettant des mesures barrières sur mesures barrières sur mesures barrières, on a très, très vite sélectionné des variants qui étaient ultra contagieux. Et donc, aujourd'hui, on a un Omicron qui est d'une contagiosité extrême et on a accéléré l'histoire du virus. Peut-être que si on n'avait pas mis de mesures barrières, cet Omicron, il ne serait même pas là aujourd'hui parce qu'on n'aurait pas mis cette barrière de sélection un peu darwinienne qu'on a mis. Ensuite, sur la moindre létalité, je pense qu'il faut différencier deux choses. La première, c'est que Omicron est déjà moins mortel parce qu'il circule dans une population qui est déjà immunisée. Omicron, c'est le premier variant de deuxième cycle, ce que je dis tout le temps. C'est-à-dire que Omicron a été extrêmement fort et a été très vite parce qu'en fait, il échappait à l'immunité qu'on avait constituée avec les précédents variants sur la transmission. Il arrivait à aller d'une personne à l'autre, même chez des gens qui avaient déjà rencontré les précédents variants. Et donc, c'est pour ça qu'il était aussi beaucoup moins sévère. Après, on dit aussi souvent pour les virus que moins ils rendent les gens malades, plus ils sont capables de circuler. Donc, en fait, le fait d'être un petit peu moins virulent est en soi déjà un avantage sur la transmission du virus. Car pourquoi ce virus nous a tant posé problème? Parce qu'en fait, il rend très peu malade. Et on ne peut pas faire de test et trace isolé avec ce virus. Si vous avez un virus qui vous met au lit en 24 heures, en fait, la vague, elle s'arrête très vite parce que tous les gens atteints sont cloués au lit et personne ne se contamine. Le problème de ce virus-là, c'est que notamment chez les jeunes, il donne quasiment aucun signe. Et donc, en fait, les gens se mettent à moins fréquenter les autres quand vous avez un phénomène tellement massif que tout le monde est un peu malade. Mais au début, personne ne s'en rend compte. Et donc, ça diffuse extrêmement, extrêmement facilement. Et donc, en gagnant encore plus de patients asymptomatiques, l'Omicron avait vraiment tout pour être le super variant ultra transmissible, à la fois moins sévère et qui se décale par rapport à l'immunité procédée par les anciens variants. Je sais pas si j'ai
Alors,
été clair.
oui, clair. Et en plus, ce qui est intéressant, je sais, tu sais, on t'en avait dit qu'on peut pas trop aller sur l'histoire de l'injection sur Facebook, mais la question quand même doit se poser. Est-ce que l'injection a participé à l'accélération du développement des variants, selon que tu l'expliques, puisque les gestes barrières, je considère que l'injection, une, deux ou trois, fait partie des gestes barrières, ou c'est une erreur de penser ça?
C'est quelque chose. Non, mais c'est une hypothèse qui peut être tout à fait discutée. Est-ce que effectivement la vaccination, de par l'effet qu'elle a sur la transmission, et elle a un effet temporaire, effectivement sur 2, 3 mois, effectivement ça fait monter le niveau d'anticorps et donc ça baisse la transmission. Sauf qu'on n'est pas certain de ça parce qu'il est aussi possible qu'en fait ça fasse passer des patients symptomatiques à des patients asymptomatiques. Or, les études qui sont faites sur la transmission en général sont que sur les cas asymptomatiques. Donc, on peut même pas en fait vraiment être certain de l'impact sur la transmission qu'a la vaccination. Donc, je pense que effectivement, dans ce cas-là, ça pourrait être. Mais je pense que c'est beaucoup plus les mesures barrières que la vaccination qui ont entraîné la sélection de variants ultra contagieux. C'est le fait qu'on fasse tout pour qu'il ne circule pas et que du coup, on l'encourage à muter pour qu'il puisse repartir à la hausse.
Ok, merci.
Au début, Martin, on pouvait percevoir que vous aviez pas, avez pas le même narratif. Même sur les plateaux, on sentait vraiment en tout cas une différence avec ce qu'on a vu avec le Martin Blachier des derniers mois. Et puis, entre autres, j'ai demandé aux gens de m'adresser des questions. Et la question qui revenait le plus souvent, dont Marc-André Bilodeau qui me l'a posée, mais elle représente beaucoup de gens qui posaient cette question-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment est arrivé le fait qu'à un moment donné, tu as changé? L'opinion a changé de Martin Blachier et on pouvait même le voir sur le narratif, sur les différents plateaux.
En fait, j'ai vraiment enfin pas complètement, j'ai vraiment changé de camp. Les gens ont perçu que j'ai changé de camp quand est arrivée cette histoire du zéro Covid. À un moment, il y a une idée extrémiste qui est née dans la société et chez beaucoup d'experts. C'était l'idée qu'on allait éradiquer le virus en arrêtant toutes les interactions sociales, qui était la stratégie chinoise et qui avait extrêmement intéressé les Allemands au départ. Et l'idée était totalement folle. Et d'ailleurs, les Chinois et Hong Kong et la Corée du Sud et le Japon se rendent compte, et l'Australie et la Nouvelle-Zélande se sont rendus compte que c'était la pire des stratégies. C'était l'idée qu'à chaque fois qu'il y avait quelques cas de Covid, on enfermait tout le monde pendant 1 semaine, 3 semaines, avant que les gens puissent revivre. Ça voulait dire qu'on avait systématiquement vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête du fait qu'il y ait 2, 3, 4 Covid. Et c'était totalement fou parce que le fait que ce virus soit asymptomatique et très contagieux fait que vous allez systématiquement avoir des vagues. Et donc là, je me suis dit, si le gouvernement va vers le zéro Covid, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et donc, il commençait à y avoir beaucoup de médecins en France qui étaient pour cette stratégie-là. Et là, je me suis dit, il faut être clair et net. Il faut à tout prix dissuader le président de la République d'aller vers cette direction du zéro Covid. Et ça a marché parce qu'effectivement, à partir de début 2021, le président s'est clairement dit, cette stratégie est folle. On n'arrivera pas à empêcher le virus de circuler. Mais pendant 6 mois, tous les médecins français ont porté la Chine comme l'exemple absolu. Et il y avait Antoine Flahault, Dominique Costagliola, tous les grands experts français qui disaient que l'exemple à suivre, c'était la Chine. On voit ce qui se passe aujourd'hui en Chine. La Chine est au même stade de l'épidémie aujourd'hui, voire pire que ce qu'elle était en mars 2020. Et donc, je pense que c'est un combat qui valait le coup d'être mené. Et c'est pour ça que j'ai un peu durci ma position à ce moment-là.
Okay. Mais qu'est-ce que tu as appris, Martin, de cette pandémie-là concernant le pouvoir médical? Parce qu'il y en a un, puis il s'exerce, et on le ressent même, nous, comme auditeurs, lorsqu'on assiste à des échanges ou quand les politiciens nous parlent.
En fait, la médecine et la santé, c'est un domaine qui est à part. Dans tous les autres domaines, vous avez l'impression que la société participe. Vous avez l'impression que c'est en fait un débat qui appartient à tout le monde et tout le monde discute des sujets de défense, tout le monde discute évidemment des sujets économiques, tout le monde discute des sujets environnementaux. Mais la santé, en fait, comme ça touche à la vie et comme la médecine a été construite en fait pour mettre une barrière entre les médecins et le reste de la population. Ils ont réussi à construire ce que j'appelle une coque autour de ce sujet-là, qui fait qu'il n'y a que eux qui peuvent se prononcer sur des sujets médicaux. Et ça, je pense que c'est une grande erreur. Il y avait un film très connu qui s'appelle Docteur Knock et qui montre en fait comment ce décalage que le médecin peut créer entre la science médicale et le reste des autres sujets. Et peut finalement constituer un pouvoir extrêmement puissant et qui marche sur les gens. C'est-à-dire que quand vous arrivez à faire suffisamment peur aux gens sur un sujet médical, vous pouvez prendre un pouvoir absolu sur eux. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je pense que la santé et la médecine doivent changer de nature. On doit faire en sorte que le médecin soit un conseiller. On doit faire en sorte que le médecin ait une compétence technique, mais on ne doit plus confier 100% sa santé à un médecin. Et c'est toute la grande différence qu'on a connue ces dernières années entre la médecine paternaliste, où en gros vous confiez votre vie au médecin, et la médecine moderne, où le médecin vous conseille avec le choix libre et éclairé. Et on a vu que la médecine paternaliste n'était pas morte. Et ce qu'elle n'arrivait plus à faire à l'échelle du patient, elle l'a fait à l'échelle de la société. Donc elle a reconstitué cette médecine paternaliste en disant, globalement, soit vous nous écoutez, soit tout le monde va mourir. Et il n'y a pas d'entre les deux, et il n'y a pas de discussion. De toute façon, vous devez nous écouter, sinon c'est la catastrophe. Et ce pouvoir médical est très très fort en France. Je pense qu'il existe dans d'autres pays, mais je pense quand même qu'en France, on est resté avec une vision extrêmement archaïque de la relation du médecin sachant et du patient, qui devait simplement livrer son sort au médecin.
On le voit, on le voit, enfin, on le voit. Ce qui est fou, c'est que aussi dans le cadre de la pandémie, c'est quand même une des rares fois où quand les gens étaient malades, on leur disait prenez du Doliprane et puis restez chez vous. C'est comme si on avait sorti le médecin traitant de la maladie. Enfin, c'est quand même incroyable. Normalement, quand tu es malade, tu as un symptôme, tu vas voir ton médecin, enfin, à part les hypocondriaques, mais normalement, tu vas voir ton médecin parce que tu es malade ou parce que tu vas pas bien. Là, dans le cadre de cette maladie, dans le cadre de cette gestion-là, c'était prenez un Doliprane, restez à la maison. Moi, je me suis toujours, ça fait 2 ans qu'on suit ce problème, je suis toujours choqué. Comment se fait-il que sur aucun plateau de télé, dans les médias, on ait dit aux gens, ayez à la maison un oxymètre, par exemple. C'est quelque chose d'indispensable. On sait, ben, c'est pas toi que je vais apprendre ça, Martin, que le plus gros problème du Covid, c'est l'oxymètre, c'est l'oxygénation du sang. Je vais te dire, après 2 ans de pandémie, avec Samuel, on fait des chroniques régulièrement, je me tue à la répéter. Pourquoi sur les plateaux de télé, personne ne le dit? Ça aurait sauvé, moi je pense que ça, par exemple, ça aurait sauvé des vies. combien de personnes sont mortes chez elles parce que le taux d'oxygénation est descendu à vitesse grand V. Puis quand on les a amenés à l'hôpital, c'était trop tard. On les a intubés, c'était fini, c'était trop tard. Donc, il y a quand même quelque chose, il y a quand même une défaillance. On a relevé une défaillance. Et je parle pour la France, mais pour le Québec, c'est la même chose. Et même ici aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, je n'ai pas vu beaucoup d'endroits où on dit aux gens, il faut avoir un oxymètre. C'est une réglage. Je comprends qu'en mars 2020, personne ne le savait. Mais on ne peut pas dire qu'en mai, juin 2020, on ne le savait pas. Très rapidement, on a compris que c'est pas le même
problème. Alors, c'est un sujet important avec deux éléments. Le premier élément, c'est que la particularité de la COVID, c'est que vous avez ce qu'on appelle l'hypoxie heureuse. C'est-à-dire que les gens désaturent et ils ne s'en rendent pas compte parce que les récepteurs au CO2 ne sont pas activés. Et donc, en fait, vous baissez votre saturation en oxygène de votre sang, donc vous transportez moins d'oxygène, mais vous n'augmentez pas nécessairement votre capni, votre CO2. Et donc, comme c'est la CO2 qui vous donne cette impression d'étouffer et d'être un petit peu disnéique, les gens désaturaient sans s'en rendre compte. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, et c'est ce qu'a montré cette crise-là, c'est que en fait, les gens ne sont jamais acteurs de leur santé. C'est-à-dire qu'on est resté dans cette notion que nous, on ne peut pas savoir, on ne peut pas gérer, on a peur parce que c'est nous-mêmes, et donc il nous faut nécessairement le médecin qui, lui, a le sang-froid pour prendre en charge la situation. Ça, je pense que ça doit changer, et je suis 100% d'accord. Les gens auraient dû avoir des oxymètres, quelques consignes, et avoir recours aux soins uniquement quand ils en ont besoin. Et je pense que c'est aussi l'avenir du système de santé, parce que dans tous les pays du monde occidentaux, on a des pays qui vieillissent, on a des systèmes de santé qui coûtent déjà très cher, et il va falloir que les gens se prennent un petit peu plus en main, sinon on aura nécessairement ce qu'on a en France, et je pense dans d'autres pays, un embouteillage au niveau du médecin, et donc finalement, un espèce de bazar qui se met en place, alors que les gens ne pourraient aller chez le médecin en étant beaucoup plus acteurs de leur santé, et finalement, en plus, en ayant une relation avec le médecin, beaucoup plus de coopération plutôt que de totale soumission, comme c'est le cas aujourd'hui.
Exactement. Moi, c'est vraiment ça, si tu veux, qui m'a vraiment choqué, c'est que on parle de toujours sauver des vies, mais je sais pas toi si dans ton travail tu t'en es, vous avez pu l'évaluer, mais combien de gens auraient été sauvés si dès le départ on leur avait dit d'avoir un oxymètre. Moi personnellement, à titre personnel, je l'ai eu la maladie. J'avais un oxymètre. Enfin, ça faisait longtemps que j'en avais un à la maison. C'est d'ailleurs, je disais toujours aux amis, à tout le monde, mais vous savez, c'est pas. Bon, t'as des courbatures, t'es fatigué, etc. La seule chose qui est importante, c'est de mettre l'oxymètre au doigt et de vérifier que tu es toujours autour de 95, 96. Mais combien de personnes ont perdu la vie parce qu'ils n'avaient pas cet oxymètre? Et personne ne parle de ça. Bon, pour moi, c'est extrêmement choquant.
Ah, mais je suis d'accord.
Et puis, tu as parlé, Martin, dans une entrevue que la santé, c'est essentiellement de la logistique. OK? Et puis qu'on ne devrait peut-être pas confier la gestion de tout ça à des médecins parce que, entre autres, tu fais référence à Amazon qui a révolutionné le mode de distribution et que ben, c'est un ingénieur qui a repensé à tout ça et qu'on n'a pas demandé conseil à des auteurs pour savoir comment révolutionner la vente de livres chez Amazon. Donc, comment est-ce qu'on peut rationaliser le système de santé en général, là?
Alors déjà, il faut laisser les non-médecins mettre le doigt dans le système de santé. Et ça, c'est très difficile parce qu'en général, les médecins repoussent très très fort les gens qui veulent rentrer dans le système et qui ne sont pas médecins. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut standardiser en fait les choses beaucoup plus. Le problème de la médecine, c'est qu'elle est restée extrêmement artisanale. De par la nature du sujet qu'on manipule, qui est l'état de santé des gens. Mais à mon sens, le médecin, je ne sais même pas si le médecin sera encore une profession qui existera dans plusieurs années. Pour moi, vous avez deux parties de la médecine. Vous avez l'expertise et le savoir, qui avant étaient détenus par le médecin, mais qui, faut le dire aujourd'hui, est tellement compliqué et tellement protéiforme que je ne pense pas que c'est le médecin qui va pouvoir continuer de gérer ça. Je prends un exemple dans le cancer. Aujourd'hui, l'analyse des mutations du cancer est tellement complexe qu'un seul médecin n'est pas capable de faire l'analyse. Et donc, on est déjà obligé d'utiliser des calculateurs, des choses comme ça. Donc, je pense que la partie technique, expertise, diagnostic, analyse des images, c'est quelque chose qui va s'automatiser et faire appel à des modèles d'intelligence artificielle ou alors être sur des algorithmes ou des choses beaucoup plus coopératives. Donc, je pense que le médecin va perdre la main là-dessus. Et l'autre sujet de la médecine, c'est la logistique. C'est comment vous vivez de façon très pratique avec votre maladie, les examens que vous devez faire, les séjours à l'hôpital, les ponctions, les consignes que vous devez avoir, la nutrition, le sport, ce genre de choses. Et ça, je pense que vous n'avez pas besoin d'avoir des médecins. Je pense que c'est des gens qui s'occupent de la logistique, qui s'occupent de tous vos autres problèmes du quotidien, qui s'occuperaient bien mieux de ça plutôt qu'un médecin qui, vous savez en France comment ça se passe, hein, vous avez un malade et il appelle tous les copains. Allô, est-ce que tu as un lit? Ah non, t'as pas de lit. Bon, allô, et toi, est-ce que tu as un lit? Ah bah attends, j'ai un patient qui va peut-être sortir. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, je veux commander quelque chose qui se vend qu'aux États-Unis, demain matin, je l'ai dans ma boîte aux lettres. Et à l'hôpital, alors qu'il s'agit de la santé, on est encore à appeler comme ça les gens. Vous savez, quand j'ai visité l'Élysée avec le président de la République, il me disait qu'en France, on ne savait même pas combien on avait de lits de réanimation. On ne savait même pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de tableau de bord pour savoir si les lits étaient occupés, combien de temps allaient rester les gens. Donc ça prouve bien que la médecine aujourd'hui a un état, en tout cas en France, quasi médiéval, parce que vous avez des seigneurs que sont les médecins qui ne veulent pas qu'on entre dans leur domaine. Mais je pense qu'il va falloir sortir de ça, parce qu'il va y avoir une révolution technologique qui font que leur petit cerveau ne sera pas capable de tout analyser. Et sur la logistique, de toute façon, c'est par leur métier et ils le font très mal. Donc voilà, je pense que ça peut totalement changer et qu'il faut que des non-médecins rentrent dans la danse pour qu'on puisse gagner en efficience.
Alors, moi, mais si tu me permets, Samuel, je dois répondre.
Oui?
Tu nous diras si tu peux en parler ou pas, Martin, mais pour les gens qui nous regardent, ça peut être intéressant, puisque tu as parlé un petit peu des échanges que tu as eu avec le président. Moi, j'aimerais que si tu peux en parler, parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu ne peux pas dire publiquement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe, les coulisses, par exemple sur les plateaux télé, tous les plateaux que tu as fait, 24 heures plus Jadas, TPMP. Bon, TPMP, on sait que c'est plutôt de notre bord, mais on va parler de 24 heures plus Jadas, l'heure des probailles, parce qu'on diffuse tout ça avec Samuel, donc les gens savent de quoi on parle. Qu'est-ce qui se dit, par exemple, quand tu es confronté? Je vais prendre une séquence, moi, qui m'a vraiment marqué, qu'on a diffusée, et je pense que tu t'en souviens, c'est chez Pujadas, un jour, tu t'es tapé, c'est quand tu avais annoncé que l'épidémie se terminerait le 1er mars et qu'il y avait une chroniqueuse en face de toi, je suis certain que tu t'en souviens, hein, et le ton avait monté assez fort, et en gros, elle voulait te donner une leçon de médecine, et tu lui as dit, en gros, je me rappelle que tu lui avais dit, portez votre masque et puis faites Noël à la maison. Je me rappelle plus de son nom, c'est une journée, je pense que tu dois te rappeler de ça.
Emmanuel Ducrot.
Emmanuel Ducrot, voilà, c'est ça. J'aimerais
Je m'en
ça,
souviens très bien.
voilà, ce que voilà, nous aussi, ça nous a marqué, on l'avait diffusé, parce que c'était assez fort. Ce que j'aimerais, ce que tu nous racontes, si tu peux, c'est là un peu l'envers du décor. Qu'est-ce qui se passe quand tu sors des plateaux, par exemple avec quelqu'un comme Pujadas ou comme Ducrot ou même des médecins comme Averkane, enfin, il y a plein de gens. Qu'est-ce que vous vous dites en off par rapport à ce qu'ils disent sur les plateaux? Et même chose concernant Macron, si tu as rencontré le président, il y a des choses que tu ne peux pas le dire, mais quelle est la tendance quand on parle avec ces gens-là, parce qu'on parle souvent de complots, de choses, etc. Qu'est-ce que ces gens-là, ces humains-là, on ne va même pas parler de président, disent quand ils parlent à Martin Blachier, que Martin Blachier dit, voilà, moi, je vous dis que l'épidémie va se finir là, je pense que les chiffres me donnent ça, etc. Qu'est-ce que ces gens-là disent? Parce qu'il y a le discours officiel qu'on voit à la télévision et il y a ce qui se dit en off, c'est partout pareil, comme nous, on fait un live, on se parle en face, mais en off, on se dit des choses. Qu'est-ce que tu peux
Alors,
nous dire là-dessus?
parce que les gens sont très courtois, il y a très 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 peu d'invectives. Le seul qui m'a invectivé une fois, c'est Didier Pitet, qui m'avait à moitié insulté dans les couloirs de LCI. Mais sinon, les gens ont été très corrects et ils me posent des questions. Beaucoup en fait me disaient, mais alors qu'est-ce que montrent vos modèles? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu les simulations de l'Institut Pasteur? Donc en fait, quand ils sont en off, ils sont dans une situation où ils vous posent des questions. Et puis après, effectivement, quand ils viennent sur un plateau de télé, ils réenfilent leur costume et ils portent le costume de leur corporation. Donc, si c'est un hospitalier, son discours, ça va être, mais l'hôpital, c'est une catastrophe, il nous faut beaucoup plus d'argent, c'est un drame. S'il y a la Covid, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'argent à l'hôpital. Si vous avez des médecins généralistes, ils vont vous dire, mais le médecin généraliste a tout son rôle à jouer, c'est lui qui doit porter ça, mais vous comprenez, c'est pas facile, voilà. Si vous avez un biologiste, il va vous dire, mais il faut absolument faire des PCR, c'est ce qu'il y a de plus important, il faut les rendre gratuites, on va se battre pour en faire un maximum. Donc en fait, si vous voulez, les gens se donnent des rôles, et c'est normal. Et je crois que c'est pour ça, moi, que j'ai percé, c'est que je ne me suis pas donné de rôle. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai dit ce que je pensais, parce que moi, je n'ai pas de rôle. En fait, je suis entrepreneur, et je travaille pour tout le monde, je fais des analyses, et donc j'étais un peu comme un consultant, mais un consultant au service de la population gratuite pour une fois, à l'inverse des autres. Et si vous voulez, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que non seulement Le pouvoir médical, à mon avis, ne doit pas être exclusif et peut être dangereux. Mais en plus, les médecins ont des conflits d'intérêts, mais beaucoup plus importants que finalement les laboratoires pharmaceutiques, parce que les médecins défendent leurs propres intérêts. Et évidemment, ce qu'ils allaient dire sur la crise dépendait du fait qu'ils étaient hospitaliers et du fait que ça fait 10 ans qu'ils essayaient d'avoir plus de lits dans leur service. L'objectif d'un réanimateur, c'était quoi? C'était qu'à la fin de la crise, il ait 2 fois plus de lits de réanimation dans son service. C'était son seul objectif. Et tout ce qu'il allait dire dépendait de cet objectif-là. Mais après, quand vous êtes en off, ils vous disent bon bah comment ça va se passer? Bon, nous dans le service, oui, effectivement, c'est plein en ce moment, mais c'est totalement dépassionné. Donc, si vous
Donc,
voulez, la passion qu'il y avait sur les plateaux était surjouée un petit peu parfois.
d'accord. Donc, tu confirmes ce qu'on dit, nous, sur les médias sociaux régulièrement, qu'en fait, il y a une complicité implicite ou délibérée des médias pour attiser pour contribuer à la peur. Parce que moi, je me pose toujours la question, je me dis, je ne peux pas penser que des gens intelligents peuvent croire aux bêtises, ce que je considère ou qu'on considère nous, aux bêtises qu'ils racontent. Je veux dire,
Alors,
par exemple,
les médias, c'est autre chose. Si vous voulez, les médias, les journalistes, ce sont des gens qui considèrent qu'ils ont une mission sacrée. Ce sont des gens qui sont dans l'emphase de leur mission. Et donc, vous avez certains chaînes par exemple, de télé, qui ont considéré que leur rôle, c'était à tout prix de faire peur aux gens pour qu'ils fassent très attention. Et donc, ils se sont donné cette espèce de mission. Il y a d'autres journalistes en France, et il y en a eu un certain nombre, qui ont considéré que leur mission, c'était de calmer le jeu. De faire en sorte que ça aille pas trop loin. Mais les journalistes vont toujours trop loin parce qu'en fait, ils considèrent que ce sont des acteurs à part entière de la société. Et donc, ils vont construire leur ligne. Et une fois qu'ils ont leur ligne, ils vont inviter des gens qui vont servir leur ligne. Mais si vous voulez, le journaliste n'est pas totalement, comment dire, objectif sur la situation. Et c'est ça qui était intéressant d'ailleurs. C'est pour ça qu'on allait dans différents médias. Mais c'est pas de la manipulation de la presse. Il n'y a pas des politiques qui appellent les journalistes pour leur dire vous faites ci, vous faites ça. Ça, ce n'est pas le cas. En revanche, les journalistes ont leur propre idée et vont inviter différents intervenants qui vont confirmer ou pas leurs idées. C'est ce que disait tout le temps Pascal Praud. Il
Oui.
disait Martin, je vous invite parce que vous pensez comme moi. Eh bien, c'est vrai pour toutes les chaînes de télévision.
Oui, mais les résultats, il y a des résultats. Quand tu as annoncé depuis, parce que ça fait pas 3 jours, tu es arrivé et que tu as donné des infos réelles de ce qui allait se passer, etc. Ces mêmes journalistes ont bien vu que ce que tu as dit depuis plusieurs mois s'avérait vrai. Comment ils ont pu tenir le narratif? Je vais te prendre un exemple, moi je vais l'en citer, je ne peux pas m'empêcher, je suis obligé de te le donner, et je pense que tu sais à qui je pense. Comment un Gilbert Deray ou une Karine Lacombe qui faisaient le tour des plateaux télé, ont pu avoir la parole aussi longtemps pour qu'à chaque fois qu'ils aient parlé, on dit que des idioties. Et on l'a vu, ça a commencé avec la fête de la musique en 2021 pour parler de Gilbert Deray ou qui fait la promotion du Remdesivir alors qu'il est néphrologue et qu'on sait que c'est toxique pour les reins. Je voudrais comprendre, moi, ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est comment ces gens-là, sur des plateaux télé, peuvent tenir ce discours et en off. Je me dis, est-ce qu'en off, ils sont capables de tenir la même chose? Un Gilbert Deray face à toi, qu'est-ce qu'il te dit? D'abord, quelle légitimité il a en épidémiologie, par exemple, ou même Karine Lacombe?
Gilbert Deray ou Karine Lacombe, déjà, vont jamais me contredire quand on sera en off. Ça va
Voilà.
être très cordial et évidemment, on va pas aller dans le débat. Maintenant, Gilbert Deray et Karine Lacombe ont perdu énormément de crédit pendant cette crise.
Exact.
Vous imaginez quand même que quelqu'un comme Karine Lacombe, c'était une sommité en infectiologie. Au début, elle parlait, je ne sais pas si vous vous rappelez, à côté du président de la
Eh
République en
oui.
expliquant la situation. Aujourd'hui, elle en est très loin. Aujourd'hui, on l'écoute à peine quand elle va sur un plateau télé. Donc, je veux dire, il y a quand même eu une espèce de justice dans cette crise. Faut pas croire que ces gens-là ont eu. Voilà, aujourd'hui, vous dites le nom Gilbert Deray sur un plateau télé, tout le monde éclate de rire.
Ah
Alors
ouais,
que
ça se
c'était,
voit, ça.
alors, bah, bien sûr, alors que c'était une sommité en néphrologie et il a fait une carrière extraordinaire en néphrologie. Donc tout ça ne s'est pas fait sans mal. Je parle même pas des Didier Raoult qui se sont un petit peu cramé, des Perron, d'autres, même de Côme. Tout le monde y a laissé des plumes, en fait, finalement, dans cette crise. Et non, je crois que on peut pas dire que les gens ont dit des choses fausses et que ça n'a pas été payé. Moi, j'ai eu l'impression quand même que pendant ces 2 ans, quand vous disiez des bêtises, vous le payez quand même à un moment.
Et concernant le président, l'autre question, c'était concernant le président, quand tu as rencontré le président, sans dévoiler le secret, je sais qu'on ne veut pas toujours te dévoiler, mais quelle est la tendance, si tu peux nous dire ce que tu peux nous dire par rapport à qu'est-ce que le président te dit ou quand vous échangez, ce qu'il pense de tes études, etc.
Moi, je ne parle pas directement au président et je ne l'ai jamais rencontré. Maintenant, vous pouvez communiquer avec son cercle rapproché. et vous avez des informations qui vous viennent de façon détournée pour savoir si ce que vous dites est écouté ou n'est pas écouté. Donc moi, c'est comme ça que j'ai su que j'étais écouté. J'ai toujours envoyé mes informations à l'Élysée, mais ailleurs aussi, hein. Enfin, je veux dire, j'ai jamais eu de secret. D'ailleurs, souvent, je les publiais sur les différents réseaux, mais c'était des choses parfois un petit peu complexes. Je pense que le président français est quelqu'un qui est très ouvert. C'est-à-dire que lui, il met ses antennes et il capte tout ce qu'il peut capter. Et après, il synthétise et il utilise ce qui peut lui être utile, soit pour régler une situation, soit pour lui être utile personnellement. Mais le président Macron est quelqu'un qui prend tout. Je sais pas s'il donne beaucoup, mais il prend beaucoup en tout cas. Et donc, si vous avez quelque chose qui peut lui être utile, il va le prendre. Il va pas regarder, il va pas écouter, il va pas sentir l'odeur de ce que vous lui tendez. Si c'est utile, il le prend. Je pense qu'à un moment, je lui ai été utile, notamment pour aller contre cette folie qui était la stratégie zéro Covid. Après, je lui ai été un peu moins utile quand je parlais de son passe vaccinal où je pensais qu'il avait fait une grosse connerie. Et vous avez pas, je pense qu'avec le président Macron, vous n'avez pas de relation, en fait. C'est vous lui donnez quelque chose, vous lui êtes utile, mais je pense pas que vous puissiez penser qu'il y a quelque chose. Et d'ailleurs, je le dis dans le livre. À un moment, je quitte son épouse que j'avais rencontrée et elle me parle comme si j'étais l'ami de son mari en me disant, mais il vous adore, il vous écoute. Et moi, je l'avais jamais vu et j'avais jamais eu de contact avec lui. Et ça, c'est un peu Emmanuel Macron, si vous voulez. C'est le fait de lui donner quelque chose, c'est la relation que vous pouvez avoir avec lui. L'autre type de relation, je sais pas si c'est tellement ce qu'il adore et ce qu'il cherche.
D'accord, mais est-ce que tu penses qu'il a eu, parce que je sais, dans le livre, tu en parles, et puis tu en parles dans tes entrevues sur le conseil scientifique, tu es très très dur sur le conseil scientifique français. Est-ce que tu penses qu'il a abandonné l'écoute d'Elfrécy et il s'est mis à écouter plutôt Martin Blacher, ou comme tu viens de l'expliquer, il écoute et tout, puis il prend ce qui l'arrange, il a pris ce qui l'arrangeait?
Je pense qu'il écoutait tout. Et après, vous savez, tout se passe dans la sphère publique aujourd'hui. Il faut vraiment considérer ça. Nos démocraties occidentales, ça se passe dans l'arène, en fait. C'est des systèmes ouverts, en fait. Ce n'est pas des systèmes où les choses se passent entre quelques conseillers et le palais. Si y a 80, vous avez réussi à convaincre 95% de la population qu'il ne fallait pas faire quelque chose, le décideur, il ne peut pas le faire. Donc, il a une marge de manœuvre qui est relativement réduite. Et donc, le président de la République écoutait bien évidemment le conseil scientifique qui avait une aura auprès des gens. Donc, c'est par ça, en fait, finalement, que le conseil scientifique était plus puissant. C'est par l'aura qu'avait Jean-François Delfrécy. Et puis, quand Jean-François Delfrécy s'est mis à perdre de son aura parce qu'il commençait à dire des choses imprécises ou qu'il s'était contredit plusieurs fois, bah, du coup, c'était d'autres qui étaient écoutés. Mais je crois qu'il faut vraiment se sortir de l'idée qu'il y a des espèces de raccourcis de l'ombre. Moi, je connais quand même bien les décideurs, je connais bien les médias, j'ai été en contact de tout le monde. Il n'y a pas de chemin de l'ombre. Tout se passe là. Et c'est aussi un message qui est passé aux gens, c'est que vous avez tous votre capacité de faire bouger les lignes. Si vous vous mobilisez, et d'ailleurs, même vous au Canada, alors j'ai vu la situation d'assez loin, mais j'ai l'impression que la mobilisation populaire a quand même fait bouger un petit peu les lignes. Et a fait que les choses sont pas passées exactement de la façon qu'elles seraient passées s'il n'y avait pas eu de mobilisation. Donc, quand vous êtes expert, vous prenez la parole, les gens vous écoutent, vous avez un poids. Quand vous avez une mobilisation collective, ça a un poids, et le décideur arbitre un peu entre tout ça.
Martin, pardon, vous avez parlé d'une surmortalité en 2020, début 2021, auprès d'une population justement identifiable. Et puis là, on s'en va vers, mais dans le futur, vous parlez de modélisation. Comment est-ce qu'on devrait trouver l'équilibre afin d'aider, afin de faire, dans le fond, de poser un équilibre entre les gens les plus vulnérables et les non vulnérables, justement, pour pouvoir apprendre à vivre avec ce coronavirus qu'on ne réussira pas à abdiquer, qu'on ne réussira pas à éliminer.
Moi, je pense qu'il y a une première règle qu'il faudrait se donner à partir d'aujourd'hui, c'est que les gens qui ne sont pas vulnérables doivent plus avoir leur existence qui est entravée par ce coronavirus. Parce que pendant 2 ans, ils ont une existence amoindrie, dégradée. Et donc, je pense que là, c'est ça y est, ils ont payé. Maintenant, la population vulnérable. La population vulnérable, vous avez deux moyens de la protéger. déjà, vous pouvez considérer que vous n'avez pas à l'obliger à se protéger, donc chacun fait ce qu'il veut. Et après, si vous voulez la protéger, soit vous avez des vaccins qui sont efficaces pour la protéger et vous faites un programme de vaccination qui leur est concerné et le reste de la population, vous n'avez pas forcément besoin de les embêter. Ou alors, vous avez des mesures barrières, comme on a expliqué, le masque, éviter certains endroits et ce genre de choses. Donc, je pense qu'avec la vaccination, et vraiment, si on avait un variant, mais je ne crois pas que ça va arriver, qui sorte de la protection vaccinale, ce serait de prendre des mesures de protection, mais spécifiques. Et je pense que de toute façon, à l'avenir, c'est ce qu'on va devoir commencer à développer. C'est-à-dire que quand vous allez avoir des, même si vous avez, j'imagine, une contrainte climatique qui arrive, avec par exemple des changements de température brutaux ou la nature de l'air qui change, je ne sais pas. Il y a des gens vulnérables que ça va toucher et des gens que ça ne va pas toucher. Et il faut apprendre aujourd'hui à gérer cette vulnérabilité. Parce qu'il ne faut pas que la vulnérabilité de certains empêche l'autre partie de la population d'avoir un avenir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. C'est-à-dire qu'on peut avoir des règles qui sont différentes pour les uns et les autres en fonction de la vulnérabilité. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout en médecine, mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit commencer à faire rentrer dans notre logiciel.
Martin Blachier, vous êtes l'auteur du livre « Méga gâchis, histoire secrète de la pandémie » qui a été édité le 10 mars dernier, paru le 10 mars dernier aux éditions du Cerf. Et puis, vous en êtes l'auteur. Est-ce que dans ce livre, qui aurait intérêt à lire ce livre, justement? Parmi tous les gens qui devraient le lire?
Puisque, attends, c'est juste avant qu'il réponde, Martin, je ne peux pas m'empêcher de la faire, Martin, je suis sûr qu'on te l'a dit. Je vois qu'Emmanuel Macron t'écoute, mais je pense aussi qu'il prend modèle pour la photo. Il y a une belle photo d'Emmanuel Macron. Il y a quand même une photo là que...
On me l'a déjà dit. je pense que c'est un livre déjà qui est très facile à lire, qui se lit d'une traite, et c'est tous les gens qui ont l'impression qu'il y a quelque chose de pas net dans cette pandémie et qui ont envie d'en avoir les idées claires. Je crois qu'après avoir lu ce livre, vous êtes un peu en paix avec ce qui s'est passé parce que vous vous dites voilà, les choses sont dites j'ai les idées claires sur ce qui s'est passé. Alors, pourquoi j'ai appelé ça méga gâchis? Parce qu'en fait, j'ai écrit ce livre et à la fin, je faisais du vélo sur le bord du lac d'Annecy et je me suis dit, mais qu'est-ce que je garde comme impression de tout ça? Ben, je me suis dit, je garde un grand gâchis, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, on a gâché des jeunes, on a gâché de l'argent, on a gâché des moments. Et donc, voilà, en fait, la bêtise, ça crée du gâchis. Et certaines quantités de bêtises qu'on a eues pendant cette pandémie, bah ça, voilà, ça a fait du gâchis de gens, du gâchis de vie. Et donc, j'ai appelé ça le méga gâchis.
D'ailleurs, tu es très dur sur, en parlant de gâchis d'argent, justement sur les tests, le coût des tests, les gens qui, les folies. Bah, d'ailleurs, au Québec, on a vécu ça, les kilomètres de queue devant les pharmacies pour que les gens aillent se tester. Enfin, je veux dire, on est rentré dans un état de folie et de délire total. Les gens n'ont aucun symptôme, n'ont rien, ne sont pas malades et vont se tester. Enfin, nous, on regarde ça, on se dit, mais. T'as rien. J'ai besoin de tester, mais ça, c'était malade.
Celui, pour vous donner une idée, en France, il y a des mois où le coût des tests aurait permis la construction de 20 hôpitaux nouveaux en un mois de tests Covid. C'est pour vous dire la folie dans laquelle on a été. Et c'est vrai que quand vous commencez à avoir la panique des gouvernants, des populations, il n'y a plus de mesures. Il n'y a plus de mesures. Et alors que vous mettiez plein de mesures pour réguler les dépenses de santé, tout d'un coup, ça part complètement. Et c'est des choses qu'on peut voir sur d'autres phénomènes de crise. Ça peut être des phénomènes de guerre et ça peut être des phénomènes de catastrophes naturelles. Vous rentrez dans quelque chose d'autre et toutes les limites que vous aviez mises, en fait, explosent. C'est pour ça que c'est très important, d'ailleurs, je pense, d'anticiper les crises et de se donner des limites d'action. Et je parle d'une chose dans le livre. Vous savez, il y a eu plein de plans qui ont été faits, notamment par ceux qui ont fermé les frontières après. De scientifiques disaient, ça ne sert à rien de fermer les frontières à partir du moment où vous avez déjà des cas dans votre pays. Okay. Et tous les pays du monde ont fermé leurs frontières, alors qu'on avait déjà déterminé que c'était une bêtise. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de faire des plans et de s'y tenir. Le problème, c'est quand la panique commence à gagner tout le monde oublie les plans et on revient dans le grand n'importe quoi.
Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Je sais pas, Samuel, si tu as d'autres questions. Sinon, moi, j'aurais bien fini avec Martin en lui posant la question, puisqu'il est épidémiologiste et fait des modélisations, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les prochains mois dans les modèles, puisqu'on entend la petite musique, même si tout le monde est focus sur l'Ukraine et la Russie, la petite musique de la sixième vague au Québec, la sixième vague en France, ça commence. Qu'est-ce que pour toi, dans tes analyses,
On pense que cette vague ne sera pas une vague aussi importante que celle qu'on a eue précédemment et qu'elle n'aurait pas un impact considérable sur l'hôpital vu les protections qu'on a eues. On a deux protections. La première, c'est quand même, on a trois protections. La première, c'est que les gens quand même n'étaient pas trop mal vaccinés, notamment les plus fragiles. C'est ça qui compte. La deuxième, c'est que dans nos pays, le virus a bien circulé et l'immunité qu'on acquiert, qu'on attrape le Covid est de très très bonne qualité. Pour être très clair, aujourd'hui, quelqu'un qui s'est fait contaminer par le Covid n'aurait plus vraiment de raison de recevoir d'injection vaccinale parce qu'il a une telle protection que c'est une protection de très très bon niveau. Et l'autre, et aussi, on a sélectionné des variants qui sont quand même moins virulents. Donc aujourd'hui, on est quand même dans une épidémie. Si vous voulez, les scientifiques considèrent que aujourd'hui, l'épidémie de Covid pour nos pays qui n'ont pas fait de zéro Covid, hein, c'est l'équivalent d'une grippe. La seule différence avec la grippe, c'est que c'est des vagues qui se font très rapidement. Mais le risque individuel, il est à peu près celui d'une grippe. Donc évidemment, les pays doivent rester stoïques, arrêter les idées de mesures et revenir sur des bases beaucoup plus standards de gestion d'épidémies hivernales.
D'ailleurs, tu parlais d'immunité. Moi, j'ai parlé régulièrement de ça. Je pense que tu vas peut-être pouvoir développer, puis on finit là-dessus. Sur justement, on parle beaucoup de l'immunité avec les anticorps. Par contre, j'entends aucun médecin parler de l'immunité cellulaire. Or, l'immunité cellulaire est la plus importante. Moi, on m'a expliqué qu'en ayant eu la COVID, sur le fond, tu es immunisé. Parce que tu sais, on te dit, oui, c'est 6 mois, il faut s'injecter au bout de 6 mois ou d'un an, etc. Or, moi, certains scientifiques m'ont dit que c'est complètement faux. L'immunité cellulaire te donne quasiment une immunité à vie. Ça n'empêcherait pas de le rattraper, mais ce qui garantit en tout cas une chose certaine, c'est que ça éviterait les formes graves. Si on reste évidemment sur le même type de souche, je sais pas si on part sur une autre maladie. Est-ce que c'est vrai?
Alors, oui, c'est vrai. L'immunité anticorps, en fait, surtout, ça empêche de l'attraper. Et c'est
Voilà.
vrai que cette stratégie de faire des rappels répétés pour empêcher de l'attraper, ça n'a pas de sens. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas grave de l'attraper si vous ne faites pas une forme qui vous emmène à l'hôpital et que vous avez cette immunité cellulaire. Je mettrai un tout petit bémol parce qu'il y a certaines populations, ce qu'on dit évidemment est vrai pour la grande majorité des gens, mais les gens qui sont très âgés ou les gens qui ont certaines maladies, même leur immunité cellulaire peut s'affaiblir. Et donc, ces gens-là, il faut quand même qu'ils aient une stratégie particulière, d'où la gestion de la vulnérabilité. Mais pour la quasi-totalité d'entre nous, qui ne sommes pas greffés rénaux, qui n'avons pas 90 ans, oui, vous avez attrapé le Covid, globalement, ça va bien se passer, comme quand vous attrapez une virose hivernale et que vous la attrapez l'année d'après également.
C'est ça, c'est pour ça d'ailleurs que parce que ce à quoi on est confronté quand on dit ça aux gens, c'est qu'ils te disent, ah non, moi je connais mon ami machin, il l'a eu 2 fois, il l'a eu 3 fois. Oui, sauf que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on montre quelqu'un qui l'a attrapé une fois, puis qu'il l'a eu une deuxième fois avec une forme grave. Je ne crois pas, de tout ce que j'ai lu, mais tu en as sûrement lu plus que moi, il y a eu un cas où
Non,
quelqu'un l'a eu et l'a.
mais c'est rarissime,
C'est ça,
effectivement.
exactement. Voilà.
Martin, pour les gens qui aimeraient te suivre, tu apparais sur les différents plateaux, mais les plus populaires, c'est 24 heures Pujadas.
Oui.
Et c'est pas mal le plus populaire.
C'est un très bon plateau, en plus parce qu'il y a une équipe qui travaille très, très dur derrière. Ils ont une équipe de 17 personnes qui préparent les sujets. Je vais souvent chez Pascal Praud parce que c'est beaucoup plus battleur. Voilà, c'est essentiellement ces émissions dans
Et
lesquelles
celle qui est bien
j'apparais.
à c'est celle de Cyril Hanouna à TPMP. C'est le
Et
vigilant.
si vous voulez vous détendre, vous pouvez regarder Cyril, que j'adore et qui fait des émissions super
En effet.
et qui est extrêmement ouvert et qui est quelqu'un qui n'a pas de parti pris.
Et puis, ça paraît. Donc, mais merci beaucoup, Olivier, de m'avoir accompagné pour cette excellente entrevue. Merci, Martin, d'avoir gentiment
Merci
accepté
Samuel.
notre invitation à te produire parce que c'est ta première entrevue canadienne, à ce que je
Oui,
comprends.
mais c'est un grand plaisir. J'adore le Canada et je vous dis, c'est un pays de cœur parce que c'est là où je suis né et mes parents ont un lien très très fort avec le Québec notamment et Montréal. Donc, avec
Mais
grand plaisir.
je souhaiterais que tu puisses apparaître sur des émissions de grande écoute ici,
Je vais
à
t'organiser,
Montréal,
je
à
vais
Québec,
organiser ça, Martin.
afin qu'on puisse entendre justement un autre point de vue. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé. Bonne fin de soirée pour toi, Martin. Et puis, à bientôt, j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir discuter à nouveau. Merci.
Merci à
Alors, merci.
vous.
Merci beaucoup tout le monde. Alors maintenant, ben, c'est à votre tour. Vous commentez, vous likez et vous partagez. Merci.